En fait, on est bizarre les chrétiens, hein. Vous savez ça, hein? Je suis content de tourner dans Matthieu 23, ça dénonce l'hypocrisie, tu sais, je veux dire.
T'as le droit d'être content.
Mais, vous savez, la parole de Dieu est un miroir. Si on regarde Matthieu 23 et on dit, hey, c'est donc bon pour les hypocrites là-bas, c'est parce que nous, on est un hypocrite ici. personne n'est au-dessus des péchés qu'on voit dans la Bible, des pharisiens, des... Le peuple de Dieu est dans le désert, qui était dur de comprendre, rebelle et tout ça. La parole de Dieu est un miroir, c'est juste que souvent on n'est pas aussi évident et... Mettons, on est un peu plus poli autour des coins, mais finalement, on a la même nature pécheresse. C'est ça l'idée, hein? La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes à travers différentes incarnation, tu sais, le peuple de Dieu est une révélation de la rébellion, de l'incrédulité, puis tu sais, Jésus ici dénonce les pharisiens, et il y a quelque chose dans nous qui est foncièrement, qui a cette caractéristique d'être pharisien. Et donc, c'est bien quand on prend le temps de se regarder honnêtement dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la vérité a franchi. Si on voit qu'on est comme ça, on peut aller à celui qui libère. Jésus les dénonçait pour les libérer. Mm-hmm. Il ne voulait pas qu'ils restent dans cette condition. Ces gens-là, c'est misérable. Ça ne devait pas une très belle vie. Là. En fait, ça n'était pas une. Alors Jésus, dans son amour, oui, les dénonce et c'est libérateur. Et Jésus aussi, encore aujourd'hui, nous révèle avec sa parole qui nous sommes afin que nous demeurions en lui, que nous trouvions notre refuge auprès de lui, qui est notre liberté, la vérité. Et donc, on va regarder juste aujourd'hui les versets 1 à 12, et on va faire quelque chose d'un peu différent. On va aller à partir du verset 23 pour retenir des choses, mais je veux qu'on recommence avec les versets 1 à 12. Vous êtes là, Matthieu 23?
Mm-hmm.
Alors, Jésus, parlant à la foule, dit à ses, et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler « directeur », car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Ici, c'est intéressant parce qu'on a un passage ici qui nous introduit à cette fameuse grande dénonciation, malheur à vous, malheur à vous. Ici, c'est Jésus qui met la table, si vous voulez. Et il nous parle, en parlant ici, il parlait à la foule et à ses disciples. Avec ces gens-là, vous rappelez-vous, on a vu la semaine dernière comment que des groupes, un après l'autre, envoyés par les pharisiens, essaient de prendre Jésus en défaut. Comment ça a fini, verset 46? Nul ne put lui répondre un mot. Depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Mais là, Jésus avait un petit quelque chose à rajouter. Et c'est, dans le fond, ici, ce qu'on voit, Jésus donne le diagnostic sur l'état spirituel de ces gens-là. Comment sont-ils ces pharisiens qui avaient voulu les prendre? Et il y a quelque chose ici d'important à marquer au verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens, c'était les gardiens de la parole. Il y avait un rôle noble. Ici, assis dans la chair de Moïse, l'idée, c'est que Moïse avait donné... La loi avait été donnée à Moïse. Moïse avait donné la loi au peuple. Et donc, les pharisiens, comme ça, étaient ceux qui gardaient la loi. Ils le faisaient très scrupuleusement. Là. Eux autres, là, il y avait des traditions où est-ce que quand c'était le temps de prononcer le nom de Dieu, quand ils faisaient des copies de la Bible, ils faisaient un lavage rituel et tout ça. Puis là, puis ils ne voulaient jamais prononcer le nom de Dieu en vain sous aucune espèce de façon. Fait que là, c'était vraiment puis très au sérieux. C'est pour ça que les textes même qu'on a hébreux, comme le texte des Masorètes ou tout ça, sont d'une méticulosité, ça se dit-tu? En tout cas, c'était fait tellement méticuleusement Parce que justement, ils prenaient ça très au sérieux. Là. Ils voyaient que c'était la parole de Dieu et tout ça. Bon, c'est sûr qu'il y a la parole de Dieu, il y avait d'autres choses aussi. Là, parce que si vous connaissez un peu les écrits juifs, là, il n'y a pas juste la Torah, les écrits qu'on a dans notre Bible. Là, ils ont d'autres, des commentaires bibliques là, tu sais, par des rabbins et tout ça, là, qui ont différents noms. Là. Mais ils prenaient ça très au sérieux. Et donc, Jésus ici reconnaît ça, il dit, ils sont assis dans la chaire de Moïse, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce que la loi qu'ils gardaient, elle est bonne, elle est parfaite, c'est la loi divine donnée par Dieu. Mais, et il y a un mais, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. C'est une définition très simple de l'hypocrisie, c'est ça. Dire et ne pas faire. Quand les bottines ne suivent pas les babines. Okay? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça l'hypocrisie. C'est juste de dire, mais de ne pas faire. Ou de paraître sans être. Et donc, on a ici, dans les versets qu'on a lus, une description très puissante et détaillée de ce qu'est l'hypocrisie et de quelles en sont les ramifications. Dans les versets qui suivent, on va voir plus tard, dans un autre message, ou d'autres messages, peut-être plus qu'un, parce qu'il y en a quand même 39 versets dans le chapitre, ben, c'est une dénonciation de ça. Donc, Jésus décrit c'est quoi, puis ensuite, il dénonce. OK? Et remarquez ici, à partir du verset 4, quand ça dit « Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. » Ici, on voit comment l'hypocrisie exige beaucoup des autres. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin, hein? Ah, on regarde pas, tu sais, quand on regarde à la paille dans l'œil de l'autre, puis qu'on regarde pas à la poudre dans notre œil, on est exigeant pour les autres. Ah, ça, il faut que ça soit réglé pour l'autre. Puis ils étaient comme ça, eux autres. Ils liaient des fardeaux et tout ça sur les épaules des hommes, mais qu'eux-mêmes, l'hypocrisie, c'est ça, c'est que tu demandes aux autres de faire quelque chose que tu n'es même pas capable de faire toi-même. Les autres ne peuvent même pas remuer du doigt. Donc, on est dur avec les autres, puis pour prendre une bonne expression québécoise, on est lousse avec nous-mêmes. Ça, c'est une des ramifications de l'hypocrisie. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ici, les phylactères, puis c'est des, bon, c'était des objets que ça venait de la loi. Là. Il avait dit, vous allez prendre le... Il y avait des petites boîtes. Là. D'ailleurs, on a ça à la chapelle, on a une boîte écrit « Jewish », je sais pas trop quoi, puis c'est tous des objets cérémoniels, puis non, c'est ça. Ils s'en mettent un là, ils en mettent au-dessus du bras, puis c'est l'espèce d'entourloupette, puis en tout cas, ça a une symbolique, ça vient de la loi de Moïse, là. Mais en fait, c'est des longs, parce que là, tu sais, c'était relié à, tu sais, là, tu connais beaucoup la parole, parce que c'était tout relié à l'apprentissage de la loi, puis d'un peu, c'était comme tu montrais ton galon, là, tu sais, comme c'est, tu sais, là, il y en a qui ont, les généraux qui ont des choses de même, ben c'était une façon visuelle, tu sais, de montrer comment tu étais versé dans les Écritures, comment tu connaissais, OK? Puis les franges sur les vêtements, c'était pareil, c'était relié ça par rapport à la piété, la prière, puis c'est pour, tu sais, il appelle ça des titis, les hébreux, leur châle, là, qui ont, là, le... Un châle, oui, c'est ça. En anglais aussi, on dit châle, d'ailleurs. Mais c'est comme des... Tu sais, comme d'autres, on dit un grenat, un chapelet, là, ben c'est un peu le concept de même. Donc, c'était tout, c'est pas... C'est des façons extérieures de montrer leur piété. Je connais les Écritures, je suis quelqu'un de prière, OK? Donc, ils font leurs actions pour être vus des hommes. OK, Jésus a même pris ça, vous vous rappelez, parce que hier, on référait à ça dans le temps dans la parole de Dieu qu'on a eu. Il y avait deux hommes, Jésus décrit, hein? Un qui prie, « Oh Seigneur, puis il était au coin de la rue, hein? Seigneur, je te remercie que je jeûne trois fois par jour, là, 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 là. Ah, puis que je ne suis pas comme ce publicain, tu sais. Ah, trois fois par semaine. Trois fois par jour, il doit être maigre, le gars. Hein? Non, mais il jeûne trois fois par jour, puis la nuit, il se bourre la face, tu sais. Non, non. Il le donne trois fois par semaine. Puis là, je donne la dîme, puis tu sais, deux fois, en tout cas, vous comprenez, là. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il n'y avait pas une longue prière. Il n'y avait pas un long phylactère. Il n'y avait pas, OK? Il y avait juste... Il se frappait la poitrine, puis il disait, « Dieu, sois apaisé envers moi. » Donc, c'est ça. On a vraiment un contraste ici. Un qui aimait être vu des hommes et tout ça. Puis qu'est-ce que Jésus, c'est quoi son diagnostic? Un est revenu chez lui justifié et l'autre non. Donc, l'hypocrisie se concentre sur la conformité extérieure et non sur la réalité intérieure. On continue la description, ça nous dit ce qu'ils aiment au verset 6 et 7. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Il y avait une notoriété, ils aimaient ce prestige. L'hypocrisie aime la prééminence, se donner une importance au-delà de ce que nous sommes, de l'auto-congratulation. Je me félicite d'être ici, ok? Un peu comme le gars que je viens de décrire dans la prière. Mais on peut appeler ça aussi de l'auto-idolâtrie. Et donc, c'est encore une autre ramification de l'hypocrisie. Et là, Jésus amène un contraste. Il vient de décrire, mais il dit « mais vous ». Donc, il parle à la foule et aux disciples. « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. » qui est dans les cieux, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ici, Jésus, il donne l'antidote à l'hypocrisie, c'est-à-dire une dose de réalité. Jésus dénonce, okay, c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire papa à votre père, puis maman. Jésus dit, appelle personne père. C'est pas ça que ça veut dire. Ou, tu sais, des fois, il peut y avoir, tu sais, mettons, des fois, notre patron, on va l'appeler d'une façon. Il y en a qui vont dire pasteur, OK? Je pense pas que c'est une interdiction totale de dire ça. C'est l'idée, c'est l'hypocrisie de donner à quelqu'un un terme flatteur, de l'élever, parce que ça, c'est ça qu'il aimait, tu sais. Ah, je suis là, tu sais. Puis, c'est toute l'idée de s'élever soi-même. Jésus dénonce justement cette idée de se penser mieux qu'on est, alors qu'il dit non, on est tous égaux. On est tous frères. Il n'y a personne qui est mieux qu'un autre. Puis là-dessus, hier, c'était le premier verset de ce qu'on a vu dans Romains. On doit tous se rappeler, d'ailleurs, c'est dans le contexte, c'est à une audience juive que ça s'adresse. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu, qui juges, tu fais les mêmes choses. Qu'on ne se pense pas meilleur qu'un autre. On est tous des pécheurs en besoin de la grâce de Dieu. Donc, c'est ça que Jésus dénonce, et l'idée de mettre quelqu'un sur un piédestal. Ça, c'est un super chrétien. Ça, c'est un super ci, un super ça. Non, on est tous des gens. Tu sais, ben, des fois, on fait ça avec l'histoire. Ah, Hudson Taylor, il était donc ben super. Lui, c'est un superman de la prière. Lui-même le dit. Il dit, j'ai rien de spécial. C'est juste que quand Dieu me met quelque chose à cœur, je prie, je suis à temps que j'ai la réponse. Puis bon, il croyait que Dieu répondait aux prières, là. Puis je veux dire, c'est pas mauvais de dire, wow, Hudson Taylor, il veut dire, c'est quand même, pas Hudson Taylor, George Muller, excusez, avec ses orphelinats. Tu sais, on peut admirer quelqu'un de même. Moi, j'admire comme Joseph Tson en Roumanie, qui est allé, puis mon ami, ce gars-là devrait être 10 fois mort, puis tu sais, il y avait une hardiesse, puis un amour pour les perdus, puis ceux qui le persécutaient, tu sais. C'est correct d'admirer des personnes comme ça pour leur foi, comme on admire Abraham, ou quand, tu sais, puis on voit aussi leurs défauts, là, c'est pas des idoles, mais l'idée, ça serait vraiment ici, l'idée, dans l'hypocrisie, d'élever quelqu'un comme s'il était, là, une espèce de gourou, une espèce de surhumain, là, une espèce de superman spirituel, OK? Et d'ailleurs, ça va ici avec comment Jésus conclut ça. Au verset 11 et 12. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc, ça va exactement dans le sens que je disais. C'est ça l'idée des titres, d'essayer de s'élever. Tu vas être abaissé. Tandis, OK. Donc, c'est vraiment ça ici. L'idée, Jésus énonce, résume, c'est la vérité qu'il vient de dire. Il amène ça comme une loi spirituelle. Tu t'élèves, tu vas t'abaisser. Tu t'abaisses, tu vas être élevé. Jésus en est l'exemple parfait. Lui qui était parfaitement élevé s'est abaissé au plus bas. Puis qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a ramené au plus haut, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. OK? C'est des lois spirituelles, c'est toujours de même. Bon. Ça, c'était mon intro. Je vais donner une dernière chose en guise d'introduction. L'indifférence de l'hypocrisie, c'est le titre de mon message après-midi. C'est une grande et triste réalité dans chacune de nos vies, comme je disais. Et c'est pas une question, OK, c'est... Il y a quelque chose qui va ensemble. L'indifférence et l'hypocrisie. Puis c'est ça qu'on va explorer ensemble, mais juste avant de l'explorer ensemble, qu'on se demande pas c'est qui l'est, hypocrite, indifférent. Plutôt qu'on se demande... qu'on demande à Dieu qu'on s'en rende compte où nous le sommes. Enfin, c'est pas une question de qui, c'est une question de où pour chacun. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de l'hypocrisie. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de l'indifférence. OK? Ça fait partie de la nature pécheresse. Il y en a qui peuvent l'être plus de façon évidente que d'autres. Il y en a qui savent juste mieux le cacher. C'est encore plus hypocrite. OK? Donc, c'est ce que je veux qu'on regarde avec maintenant. On vient de regarder ensemble les versets 1 à 12. Je veux faire un petit saut en avant juste avec le verset 23. Vous le connaissez probablement très bien. C'est souvent cité, ce verset-là. Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nède, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Je pense que ce verset-là résume tout ce qu'on vient de parler par rapport à la question de l'hypocrisie que Jésus a décrit dans les versets 1 à 12. C'est ça, c'est mettre l'emphase, l'importance sur l'extérieur, sur ce qui se voit, sur ce qui est vu des hommes, OK, comme on vient de le voir là, mais négliger ce qui est le plus important, les choses les plus lourdes, les plus pesantes. La justice, la miséricorde, puis la fidélité. Je veux juste qu'on regarde ensemble ces trois choses-là. D'abord, la justice. C'est quoi la justice? Vous voulez une définition simple de la justice? C'est simplement rencontrer ses obligations. Jésus-Christ était parfaitement juste parce que tout ce qui était demandé de lui dans la loi parfaite de Dieu, il l'a tout fait au complet. C'est pour ça qu'on dit que c'est juste lui qui l'a fait. Il a rencontré toutes ses obligations. La loi dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas. Jésus l'a fait parfaitement tout le temps, même dans les motifs de son cœur. Okay? Pour nous, ce n'est pas le cas, évidemment, on sait très bien. Mais on a besoin de comprendre ici, puis c'est ça avec les pharisiens qui ne comprenaient pas, ils gardaient la lettre de la loi, ils se faisaient croire que tout allait bien, puis tout ça, puis même Paul... quand il dit de lui-même, puis il réfère à son passé, « Moi, en tant que pharisien, irréprochable quant à la loi. » Vraiment? Mais extérieurement, il gardait cette conformité extérieure. Donc, il y a une différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi, ou pour amener les choses comme Jésus l'a amené dans le sermon sur la montagne, une différence entre l'acte extérieur de commettre un meurtre versus haïr dans notre cœur. Mm-hmm. Les deux, c'est devant la loi, devant Dieu, le Dieu qui nous a donné la loi, c'est les deux, le diagnostic, c'est coupable. Okay? On sait que la loi, elle est bonne, elle est parfaite, et c'est par l'Esprit de Dieu seulement qu'on peut rencontrer ses obligations. Évidemment, on peut pas les... Je veux dire, Christ l'a fait pour nous. OK, là, on s'entend, là. Quand on parle de justice, notre justice est comme un vêtement souillé. Nous avons la justice imputée de Christ. OK? Christ nous a couverts de sa justice. Mais même dans notre vie chrétienne, la justice, parce qu'ici, il dit, vous êtes hypocrites, vous avez fait ci, puis ça, puis vous avez négligé la justice dans votre quotidien, dans votre vie. Et comment est-ce que ça, c'est possible dans notre quotidien, dans notre vie, de garder la justice, encore là, c'est à cause de Christ, sa justice qui nous est donnée par l'Esprit. Ça dit dans Romains 8, 2, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, à cause de la loi supérieure, il y a une loi de péché qui me tire vers le bas, qui me tire vers le péché, puis la loi supérieure de l'esprit et de la vie me donne la victoire sur cette loi-là. De la même façon que quand je suis dans un avion puis je prends mon envol, la loi de l'aérodynamique me donne la victoire sur la loi de la gravité. Donc quand je suis en Christ, en lui, j'ai cette grâce supérieure qui c'est ça ici l'idée de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi, qui m'a libéré de la loi du péché puis de la mort. Quand continue ce passage-là, dans Romains chapitre 8, verset 3, ça dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Ok, je veux dire, si on essaie d'obéir à la loi avec les efforts de notre chair, ça va jamais marcher, ça a jamais marché, puis ça marchera jamais. Ok? Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et là, regardez bien, verset 4. et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Sérieusement, moi je lis ça, puis des fois j'ai de la misère à y croire. La justice de la loi accomplie en moi? Qui marchons non selon la chair, mais par l'esprit. Si on marche par l'esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Quand on marche par l'esprit, à cause que c'est la grâce de Dieu, à cause que c'est surnaturel, on accomplit la justice de Dieu. C'est la seule façon d'être agréable à Dieu, d'accomplir sa justice, c'est par l'esprit. C'est ce que ça dit dans le prophète Zacharie. C'est pas par la force de notre chair, c'est pas par notre puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. OK? Et, vous savez, c'est trop facile d'être content dans notre propre justice. Jésus a parlé de ça. Quand il dit dans son sermon sur la montagne, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça, je veux dire qu'il faut qu'on essaye plus fort qu'eux autres, qu'on soit plus sincères. C'est ça que ça veut dire? Ah oui, eux autres, c'était vraiment les champions des « on essaye fort ». Tu sais, je pense que dans l'histoire, c'était peut-être les plus du plus. Tu sais, quand on parle de loi de Dieu et tout ça, c'était comme les champions hors catégorie. Mais Jésus ici, évidemment, il ne parle pas de l'idée d'essayer plus fort qu'eux autres. C'est d'avoir cette justice parfaite qui nous est imputée par le salut, mais aussi dans la vie, quand on marche par l'esprit, ce que je viens de vous dire là, c'est la seule façon d'avoir une justice qui plaît à Dieu. Donc, c'est la première chose qu'on apprend sur la justice. OK? Puis juste un autre point là-dessus. Vous savez, ici, une église comme la nôtre, je pense qu'on a compris l'idée, on ne veut pas être une place de mascarade et essayer de se montrer comment on est bon, on est bon spirituel. Non, on veut être vrai, n'est-ce pas? Mm-hmm. On n'a pas personne qui est meilleur qu'un autre. On le dit souvent, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes péchés. On n'a pas à regarder personne de haut parce que, je l'ai dit même un matin, si je regarde quelqu'un de haut avec son péché, lui peut me regarder de haut avec mon péché que moi j'ai de la misère avec. OK? Donc, on n'est pas meilleur personne, un que l'autre, mais écoutez ce que ça dit dans Philippiens, au chapitre 1, les versets 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, Paul priait pour les Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Lorsque la vie de Christ nous anime, lorsqu'on marche par l'Esprit, comme on l'a vu là, lorsque par l'Esprit de Dieu, on se laisse diriger par Christ, que sa vie se manifeste à travers nous, ça va produire le fruit de la justice, de sa justice. Et ça, c'est beau, c'est plaisant. C'est le fun d'être avec du monde de même. Moi, j'aime pas être avec moi quand je suis rempli de ma propre justice, puis que je chiale, puis que je suis pas content, puis que j'ai de la misère à pardonner à quelqu'un. Je suis pas très agréable, puis je suis pas non plus agréable aux autres. Ça vous arrive, hein, vous autres aussi, de vous tomber sur les nerfs de même? OK? Sinon, peut-être que vous devriez. Non, mais c'est vrai! Tandis que la justice qui vient de Dieu, la vraie, c'est la justice propre, autrement dit, c'est repoussant. Mais la justice de Dieu, c'est beau, c'est bon, c'est des fruits, c'est une justice vivante. Parce que Dieu, ses obligations sont toutes bonnes. Quand on marche dans les voies de Dieu, par l'Esprit de Dieu, waouh, c'est agréable pour nous, c'est agréable pour les autres. Et c'est comme ça que Jésus était. Jésus devait être vraiment d'une compagnie assez incroyable. Moi, des fois, j'essaie de m'imaginer comment que les parents de Jésus, ils devaient se sentir. Leur conscience a dû les accuser souvent. Mais toi, quand ton fils de 8 ans, 10 ans, que juste par son attitude, tu te rends compte, « Man, c'est moi le méchant, là. » Puis lui, ça doit être quand même humiliant, là. Puis c'est ça. Puis pourtant, il était soumis, puis tout ça. Ça, c'est quelque chose, tu sais, on dit, on a des questions au ciel, là. Moi, je peux-tu voir le film? Tu sais, de toute façon, on a l'éternité, là. Mais juste le film de Jésus, de quand il grandissait, ça devait être... Wow! Ça devait être quelque chose. Bon, justice, maintenant miséricorde. Et on y va simplement avec cela. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, vous savez, c'est miséricardia. Misère dans le cœur. Puis l'idée de miséricorde, c'est je ressens ta misère dans mon cœur. Mm-hmm. Et Ça, c'est l'inverse de l'indifférence. L'indifférence, c'est voir l'autre dans la misère et y fermer notre cœur, ne pas en faire de cas. Et dans un endroit comme une église locale comme la nôtre, dans des familles comme les familles qu'on a ici, dans les milieux de travail, la miséricorde, mes amis, c'est comme ça. La miséricorde, l'amour, c'est comme ça qu'on gagne les gens. Savez-vous, c'est pas à force d'arguments d'avoir toute raison qu'on gagne les gens. Des fois, c'est en acceptant qu'on n'a pas toutes les réponses. Des fois, c'est juste en écoutant la personne qui dit n'importe quoi, mais qu'on prend le temps de l'écouter. Après, on peut dire, je veux dire, pas dire qu'on va donner raison aux mensonges, puis tout, mais juste. Puis, la miséricorde, elle ressent la misère de l'autre, mais aussi, Dieu, le miséricordieux, il sort les gens de leurs conditions misérables. C'est ça aussi, la miséricorde. C'est quand tu vois quelqu'un, au lieu de donner ce qu'il mérite, tu as de la miséricorde, de la compassion, tu le sors de sa condition misérable. Et ces chers pharisiens connaissaient si bien la loi, c'était des champions. Ils étaient indifférents aux gens autour d'eux. Eux, que Dieu avait confié la parole de vie pour pouvoir avoir un ministère de relever les abattus, les esprits affligés. Vous regardez, dans l'Ancien Testament, là, il y en a tellement de monde découragé, là. Puis c'est tout écrit pour notre édification, puis il aurait pu se servir de cette parole vivante pour avoir un ministère extraordinaire auprès des gens qui avaient Rome, qui leur donnait la misère, des taxes, des conditions de vie difficiles, là. Mais non, il était indifférent. Il avait pas, il ressentait pas la misère des gens. Et mes amis, que Dieu nous protège d'arriver à cet endroit où est-ce que on ne voit plus la misère dans ce monde. Et je parle de la misère spirituelle. Oui, il y a de la misère, il y a des gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Il y a ce type de misère-là, puis c'est réel et tout ça, mais aussi, il y a la misère spirituelle, il y a des gens qui ont tout, qui ont la grosse auto, la grosse maison, mais qui sont les plus misérables qu'il n'y a pas.
Ouais.
Moi, vous savez, dans le ministère de prison, souvent, j'ai plus de peine pour les gardiens puis les gens de l'administration que certains prisonniers. Ben, les prisonniers qui viennent me voir, ils ont soif de la justice, sont heureux. J'en vois d'autres qui sont là, puis ils viennent, ont les conditions de travail, ils ont le job steady, mais mon ami, ils ont l'air malheureux. Ils sourient pas, ils ont pas de joie. Puis à ce temps-là, je parle aux détenus, puis je dis, il faut qu'on prie pour ces gens-là. Ils ont besoin. Non, mais c'est vrai, ils ont besoin du Seigneur.
Ils ont pas le droit.
Non, mais je dis aux ben oui, j'ai le droit. Je dis aux détenus qu'il faut prier pour les gardes.
Non, pas vous. Les gardes, les amis n'ont pas le droit de prier pour les. Parce qu'ils ne parlent pas avec les secours. Alors, ils ne prieront pas pour les gardiens.
Ah non, certains qui prient.
Ah oui?
Ben oui.
Oui.
Ben oui, qui prient. Ben pas toutes, parce que ceux-là qui viennent me voir, il y a Dieu qui dans leur cœur. Non, il y en a qui vous tapent pour que le feu lui tombe sur la tête, là. Mais bon, ça, c'est un autre histoire. Non, mais sérieux, les détenus que je vois. Puis, il y en a dedans qui sont sauvés, qui sont vraiment nés de nouveau, là. C'est pas la majorité. Puis, il y en a que Dieu fait une œuvre, que ils s'approchent du salut. Puis, je leur dis ça. C'est salutaire. Au lieu d'avoir les poings levés, ils ont les mains jointes. Ça change pas mal l'approche. La miséricorde. Écoutez ce que ça nous dit sur Jésus. Non, excusez, c'est pas ce passage-là, mais dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 8, ça dit « Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. » Dieu, des fois, nous met dans des situations, et ici, c'était, il parle aux Corinthiens, il donne l'exemple des Macédoniens, puis tout ça, puis bon, c'était pour avoir de la miséricorde, de la compassion pour les pauvres de Jérusalem. Puis Paul mettait ça devant eux autres, il dit « Pas pour vous donner un ordre, mais pour éprouver... pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, des Macédoniens, la sincérité de votre amour. La miséricorde montre la sincérité de notre amour. » Et quelque chose que je trouve qui est dur en ce moment, en regardant le peuple de Dieu, je pense qu'il y a une prophétie qu'on voit s'accomplir, dont Jésus a parlé dans Matthieu 24, on va voir ça dans Dieu voulant en quelques semaines. Ça dit que l'iniquité va s'accroître et que l'amour du plus grand nombre va refroidir. C'est triste de voir ça parmi le peuple de Dieu, de ceux qui se nomment de Christ. Que Dieu ait miséricorde de nous. Et ça m'amène au dernier point. Jésus a dit, dans verset 23, il dit, vous avez tout payé vos affaires, vous avez tout fait ça beau, mais il vous manque la justice, la miséricorde et la fidélité. Fidélité, c'est la même racine que foi. Ça paraît moins en français, si on parle en anglais, ça paraît plus faith, faithfulness. Tu sais, foi, plein de foi, là, on pourrait dire, en tout cas. Fidélité, mais même dans l'original, aussi, si c'est très proche les deux mots, là. C'est quoi la fidélité? C'est, il y a l'idée de constance, mais aussi l'idée de foi, de confiance. Une confiance constante, une confiance stable. En anglais, il dit « steadfastness ». C'est l'idée de demeurer, que la foi garde son objet, reste attaché à l'objet de sa confiance. Et là-dessus, j'aime bien Colossiens chapitre 3 qui nous dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et ensuite, ça dit au verset 2, non seulement on doit les chercher, mais on doit s'attacher. OK, voyez-vous, la constance, ça demeure. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. C'est-à-dire, un mort, il n'y a pas grand projet de vie, là. Tu sais, si Christ est ma vie, mes projets sont morts. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. C'est à ça que je m'attache. Ma vie, c'est plus la mienne, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ça l'idée d'être attaché à ce qui est éternel, à ce qui est vrai, à Christ, notre vie. Et que ça soit constamment, de rester attaché à ça comme étant notre vie. Pas Paul, mais Pierre a dit à Jésus, vous savez, dans Jean 6, c'est un passage assez difficile parce que là, il y en a qui se revirent de bord, puis ils laissent Jésus, puis tout ça. Puis Jésus se revire de bord vers les disciples, puis il dit, puis vous, qu'est-ce que vous faites? Partez-vous? Qu'est-ce que Pierre répond? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça ici l'idée. Une foi qui s'accroche coûte que coûte, qu'il n'y a rien d'autre. Dieu, tu es ma vie, tu es mon pain de vie, tu es mon eau vive. Où je pourrais aller? Pensez-y, si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a pas de plan B. Là. Moi, j'ai pas de plan B là, pour ma vie. Là, je veux dire, je suis un chrétien, puis c'est point final à la ligne, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est pas que j'ai pas de but d'envie, là, mais... Je veux dire, j'irai où, là? Tu sais, j'ai pas une autre religion que je considère, peut-être, là. D'ailleurs, ça, des fois, je me rappelle quand j'ai été sauvé. Ben là, Guillaume, là, tu sais, les gens t'inquiètent. Là, t'es pas mal fermé, là. Faut que tu considères d'autres choses. Ben non, j'ai trouvé la perle de Grand Prix, j'ai trouvé. Tu sais, quand t'as plus besoin de chercher, là, parce que les autres, c'est des systèmes crevassés qui retiennent pas l'eau. Là. Puis on sait quand on est chrétien, c'est évident. Ben voyons, tu sais. Alors, je peux bien être ouvert puis apprendre académiquement. Tu sais, j'essaie. Mettons, j'ai étudié sur l'islam un peu, puis tu sais, bouddhiste, tout ça, pour essayer de comprendre, mais pas pour chercher puis dire, ah, il y a sûrement une réponse là-dedans. Maintenant. Quand la Bible nous dit qu'on doit avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça aussi, c'est une idée de constance. Et ça, Christ était vraiment focusé. Christ est venu, lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, kénosis, a mis de côté certains attributs divins. Il n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais il a mis certains attributs divins de côté. Et comme ça, dans son incarnation pour prendre une forme de serviteur et que ça l'aboutisse à la mort horrible de la croix. Et ça dit, ayez ces sentiments de ne pas compter votre vie comme précieuse, comme Paul disait, mais qu'on ait le désir de simplement achever notre course et que ça soit assez pour moi, peu importe comment ça va aller. Hey, c'est quand même salutaire en ce moment, là, je veux dire. Tu sais, on dit ça, excuse-moi, c'est pas une joke, là, mais... Tu sais, je pense qu'on a à peu près 10 façons d'avoir la fin du monde puis, ou de tout mourir de je sais pas trop quoi. Non, mais c'est vrai, crise de faim, crise économique, tu sais, des scénarios catastrophes, c'est incroyable, c'est comme, coudonc, à date, il n'y a rien d'arrivé. Mm-hmm. Mais, ce que je veux dire avec ça, ça devrait même pas, je l'ai en anglais puis c'est le verset que je viens de citer, Paul il dit « None of these things move me » parce que là, Paul s'en allait à Jérusalem. Puis là, quelqu'un qui a pogné la ceinture, vous connaissez l'histoire. Puis, hey, tu vas mourir, papa, à Jérusalem, ça va aller mal. Paul lui dit, comment ça dit, none of these things move me. C'est acte 20, 24, là. Il dit, pourvu que j'achève ma coupe. Ben, tiens, on va y aller. Acte 20, 24. Parce que c'est ça l'idée, fidélité, s'attacher, demeurer.
20, 24.
20, 24. Il ne me l'était pas écrit, là. 20, 24. Ah, c'est ça. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que cette pensée nous anime. Pensez-vous quoi? Le reste, on ne sait pas. Sincèrement, moi, je ne veux pas perdre d'énergie à faire des scénarios. Non, mais c'est vrai, on peut aller ici à l'église, on peut faire des scénarios. On peut faire des scénarios avec notre vie, tu sais, le professionnel, puis tout ça. Puis c'est pas qu'on est insensé, puis on avance complètement les yeux fermés, puis on traverse la rue avec un bandeau sur les yeux. Mais en même temps, je veux dire, ça sert à quoi de se faire 36 scénarios, ça ne peut qu'il n'y en ait aucun de ceux-là qui arrive. Mm-hmm. Tu sais, comme je dis, famine, là, puis tout. Je sais pas, là. Ça se peut, là. Tu sais, je crois pas qu'on va être enlevé avant qu'il y ait tout au. Ça se peut qu'il y ait des problèmes, mais c'est du coup, il va falloir qu'on fasse confiance à Dieu quand on va être là. Mm-hmm. Puis si on meurt de ça, si on meurt demain, bon, on va mourir demain. Je veux dire, après, c'est juste du mieux, là. Mm-hmm. Après, c'est juste la félicité éternelle. Mm-hmm. Parce que pas qu'on est insensé puis insouciant, mais comme Paul il dit, j'aime ça en anglais, none of these things move me. C'est comme. Puis je fais pas de cas pour ma vie, là, comme si elle m'était précieuse. Il faut absolument que je garde ma vie. Cette fidélité à Dieu brise notre instinct fondamental de préservation et nous anime d'un zèle pour Dieu, d'un amour, d'une direction inlassable vers Dieu, constamment. Wow! Vous savez, on a parlé de l'hypocrisie et tout ça, mais la fidélité, c'est bien l'inverse. C'est l'inverse de l'indifférence puis l'hypocrisie. Et je vous laisse avec ce verset-là. Vous connaissez Ézéchiel 22:30. Peut-être que vous connaissez, vous ne vous rappelez plus de la référence. C'est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ézéchiel a dit ça il y a des milliers d'années, des centaines d'années. Et il n'y en avait pas à l'époque du temps d'Israël. Et savez-vous quoi? Quand Dieu cherche un homme, il cherche quelqu'un, un homme, une femme, avec simplement ces qualités qu'on a vues, qui est revêtu de la justice de Christ, qui marche dans cette justice par l'Esprit, qui a cette miséricorde, cette disposition envers les autres, même les pires, même les plus tannants, et cette fidélité, cette steadfastness, cette constance à aller dans cette direction. Ça, ça fait la différence. Savez-vous quoi? En ce moment, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de nouvelles politiques, de programmes sociaux, tout ça. On a besoin d'hommes et de femmes pour qui Christ est tout et le reste, ça va s'occuper de soi-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. À chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu nous parles. Tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur, c'est tellement beau, c'est majestueux de t'entendre dans les évangiles. Tu parlais comme personne d'autre n'a parlé. Et Seigneur, merci que c'était d'une beauté, c'était majestueux. Seigneur, merci qu'on a pu se nourrir de ces paroles de vie après-midi. Seigneur, c'est précieux pour nos âmes. Ça nous fait du bien. Et Seigneur, on sait que tu nous nourris afin qu'on puisse aussi bénir les autres. Cette semaine qui est devant nous, Seigneur, on désire marcher dans tes voies. Que la joie du Seigneur soit notre force. Que vraiment, Seigneur, tu puisses garder nos yeux fixés sur toi. Et que dans ce monde qui est tellement sans espoir, qui est tellement triste, qu'on puisse représenter celui qui est l'espérance du monde. Celui qui transforme la tristesse, le chagrin en joie, en allégresse. Seigneur, merci qu'on a ce privilège de te connaître. Oh, et on va avoir cette joie de pouvoir te faire connaître aussi. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta fidélité, ta bonté envers nous. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.